Alors, je me réjouis d'être ici. Un Allemand qui parle avec un accent en français, c'est toujours un peu dur. Mon accent est encore plus dur parce que j'ai appris le français en Suisse romande. Alors, j'aimerais bien parler de ces aspects-là et commencer avec juste vous rappeler que vous avez un cerveau qui est merveilleux. Vous vous rappelez certainement du nom du président. Facile. Vous savez ce que c'est une pomme, le concept de pomme, des différents aspects, surface, goût, sont associés. Peut-être vous avez appris à faire du vélo ou jouer au piano ou au violon. Vous faites des décisions. À la pause de café, est-ce qu'on va prendre un café ou un thé ou un chocolat? Alors, notre cerveau a multiples facettes. Et je vais parler de quelques-unes de ces facettes, mémoire, action, décision. Et je vais commencer avec un petit aperçu du cerveau qui sera court, parce que je vais directement construire sur ce que Madame Clark vient de dire. Et après, je fais une transition vers les réseaux de neurones artificiels pour finir avec les questions fondamentales. Alors, commençons avec le cerveau. On vient d'entendre que le cerveau est organisé dans différentes aires corticales, donc des régions visuelles, moteurs, frontales, pariétales. Maintenant, on va faire un zoom sur les neurones. Et ce que vous voyez ici, c'est un réseau de neurones dans le cerveau. Ce sont des cellules. Il y en a beaucoup de ces cellules. Dans chaque millimètre cube, vous avez 10 000 de neurones. Et dans ce millimètre cube, vous avez 3 km de câblage. Câblage, ça devient où? Parce que chaque neurone, chaque cellule fait des longs câbles à des connexions locales, mais aussi lointaines. Et ça forme un réseau assez dense où chaque neurone reçoit 3 000, 4 000, 5 000 d'entrées d'autres neurones. Le long de ces câblages, on a des impulsions. Ces impulsions sont appelées les potentiels d'action. J'aimerais simplement parler d'impulsion. Alors ici, vous avez une impulsion qui traverse de gauche à droite. Ce neurone-là reçoit une impulsion, mais ce n'est pas la seule impulsion qu'il reçoit. Il y aura d'autres impulsions, d'autres neurones de gauche, de droite. En total, il a plus que 1 000 de ces entrées. Et une façon de voir ça, c'est la suivante. Alors ici, de nouveau, j'ai mon petit neurone qui est ici. Que j'ai simplifié en schématique ici. Maintenant, il a une impulsion qui arrive et cette impulsion évoque une réponse du côté du neurone récepteur. Mais j'ai dit, il n'y a pas une seule impulsion qui arrive, il a plusieurs de ces impulsions et toutes ces impulsions les effets de ces impulsions seront sommés. Et à un moment donné, cette sommation atteint une valeur seuil et une nouvelle impulsion est sortie de ce neurone-là. Alors ça, c'est le traitement au niveau d'un seul neurone et je construis à partir de ça des réseaux de neurones. D'accord? Maintenant, chaque neurone, pour moi, c'est maintenant un de ces cercles jaunes et il y a plusieurs neurones qui deviennent actifs, peut-être celui-là, qui envoient des impulsions à d'autres neurones, qui vont activer d'autres neurones. Comme ça, l'activité traverse à travers de ce réseau de neurones. Et ce réseau de neurones est juste une toute petite partie du cerveau. Donc, dans le cerveau, globalement, on a des billions de neurones qui sont connectés. Alors, on vient de parler des neurones. Il y a un deuxième aspect qui est super important. Et Stéphanie l'a mentionné, c'est le point de contact entre ces neurones. Alors ici, j'ai dessiné un de ces points de contact. C'est chimiquement, c'est relativement complexe, mais ça m'intéresse pas parce que je m'intéresse à l'effet que cette impulsion-là aura sur le neurone qui la reçoit. Et j'ai dit, ça donne une certaine réponse. Ici, en pointillé. Maintenant, chaque fois que nous apprenons quelque chose, il y a la force de ces connexions qui change. Alors, plus tard, une de ces impulsions peut faire une peut causer une réponse plus large. Alors, chaque fois que vous apprenez, ou quand vous avez appris, en tant qu'enfant, le concept d'une pomme, vous avez appris à jouer du piano ou faire du vélo, vous avez appris le nom du président, tout ça correspond, pas à un changement dans les neurones, mais dans un changement entre les connexions des neurones. Le cerveau est compliqué, Stéphanie a donné un aperçu de toutes ces merveilles cognitives. Maintenant, j'aimerais prendre ces éléments-là, il est transformé dans un modèle que je peux simuler sur ordinateur des réseaux de neurones artificiels. Alors, je pars de cette image-là. J'ai ici mon réseau, j'ai un neurone, et ce neurone reçoit une réponse, vous avez vu ça. Il y a plusieurs points de contact. Chaque point de contact peut amener une réponse quand une impulsion arrive. Je vais sommer ces différentes impulsions, ou plutôt les réponses à ces impulsions, je compare avec un seuil. Ce que je viens d'écrire ici au niveau schématique, je peux la transmettre directement dans un langage mathématique et dire des réponses sont additionnées. Ça donne une formule mathématique. Quand ça atteint une seuil, ça donne une impulsion, de nouveau mathématique. Ils sont transmis aux autres. Alors, c'est cette description-là qui me permet de simuler les réseaux de neurones sur ordinateur. D'accord. Donc maintenant, on a les neurones. Mais on doit parler de l'apprentissage. L'idée de base de l'apprentissage, c'est que si je regarde cette connexion-là de J à I, ce qui compte, c'est la coactivation de deux neurones. Donc, si deux neurones sont simultanément actifs, la connexion de J à I sera renforcée. Et pourquoi est-ce que c'est utile? C'est utile, par exemple, pour apprendre le concept d'une pomme. Alors, rappelons l'idée de base. J'ai deux neurones. Je peux mesurer la force d'une connexion en mettant une impulsion ici. C'est la petite réponse ici en zoom. Et maintenant, je fais une coactivation des deux neurones pendant une seconde, par exemple. Et ça se fait par mes collègues expérimentaux font exactement ça. Et après, je peux de nouveau regarder et je vois la réponse est plus forte. Alors, la connexion a changé. Et c'est ça la base de l'apprentissage. Pourquoi c'est utile? Alors, imaginons que vous faites un voyage vers un continent loin. Et là, vous voyez une fruit exotique. Alors, cette fruit exotique va activer certains neurones qui correspondent à l'aspect visuel, la couleur, la forme. Peut-être vous voulez tester l'odeur. Vous faites la touche, donc vous avez la texture, vous avez peut-être, vous ouvrez la banane, et vous avez le goût. Donc, comme Stéphanie a dit, il y a différentes aires corticales qui sont activées. Il y a dans chacune de ces aires, il y a des neurones qui seront activés. Et maintenant, j'applique ma règle de coactivation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que toutes les connexions entre les neurones actifs en même temps sont renforcées. Et à ce moment-là, je dis, le concept banane a été mémorisé. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que je peux oser dire un truc comme ça? Parce que maintenant, vous revenez, vous avez peut-être pris une photo de la banane pendant votre voyage. Maintenant, vous êtes de retour, la photo n'a pas tellement marché, vous voyez seulement un petit bout. Alors, il y a seulement une partie des informations d'origine qui sont réactivées. À partir de ce stimulus photographique, il y a une partie des neurones qui sont activés, mais maintenant, à travers de ces fortes connexions, il y a d'autres neurones qui s'allument aussi, et à la limite, vous voyez, vous pouvez associer, ah oui, c'est comme ça la banane, et en plus, vous avez l'association de l'odeur, du goût, peut-être la situation au moment où vous avez vu la banane la première fois. D'accord? Donc, ces connexions renforcées permettent l'association du concept banane pas image banale, vraiment concept banal, banal avec tous ces aspects différents. Alors, et le concept, ça, le concept, lui, est représenté par la combinaison de neurones qui sont actifs. Mais pas tous les neurones qui sont actifs. Il y a un sous-groupe de neurones qui est actif. Je peux mettre ça sur ordinateur. Et par exemple, ici, c'est 5000 neurones qui sont simulés sur ordinateur. Exactement le type de neurones que je viens d'écrire avec une image. Et vous voyez que, disons, c'est après le voyage, donc les connexions sont déjà fortes. Et maintenant, ici, il y a une information partielle qui va réactiver une partie des neurones qui étaient actifs pour le concept banane. Et ensuite, je peux enlever le stimulus. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez imaginer, ah oui, banane, c'était comme ça. Alors, la mémoire est rappelée avec un petit stimulus, mais elle n'a pas besoin du stimulus pendant le rappel. Il continue. Et le même réseau peut stocker plusieurs de ces concepts que j'appelle banane, pomme, je ne sais pas quoi. D'accord? Alors, on a dans notre cerveau, on a beaucoup de neurones, beaucoup de connexions, beaucoup de câblage, et la mémoire est dans le choix des connexions. Et c'est la coactivation de deux neurones qui fait changer cette connexion. Alors, la mémoire est dans les connexions, et la coactivation fait quelque chose pour faire, pour construire ces mémoires, mais il manque quelque chose. Et pour voir rapidement ce qui manque, parlons de l'apprentissage d'action. On a dit coactivation de deux, plusieurs neurones changent les connexions. Maintenant, imaginez un petit bébé qui essaye d'attraper un objet. Donc, c'est vraiment, au début, il commence à attraper, il fait plusieurs essais, et c'est seulement le cinquième essai qui réussit. Alors, dans chaque essai, on aura des neurones qui sont coactivés. Dans chaque coactivation, je change les connexions, mais à travers ça, comme j'ai expliqué pour les bananes, ça devient plus facile de réactiver ce réseau même. Mais c'est le réseau qui s'est construit avec le faux mouvement. Alors, ce qui manque, c'est une valeur qui est associée à cette activation. Un joueur de ping-pong, un pongiste, quand il apprend un nouveau service, il fait le service, il s'aperçoit que la balle va trop loin, hors jeu. On ne veut pas apprendre ce faux geste, on veut apprendre la bonne geste. Donc, il manque cet aspect de valeur, ce qui est bon. Ou un petit enfant qui apprend à jouer au piano, la même chose. Finalement, quand vous apprenez quand vous entraînez un animal à faire des gestes particuliers, c'est ça ce que vous utilisez. Vous avez des petits sucres pour dire ça c'est le bon moment, ça c'est le bon geste. Pour les humains, c'est plus compliqué parce que la notion de succès, c'est pas seulement un sucre, c'est peut-être se dire ah oui, maman aurait d'être content si je fais ça. Ou c'est un compliment explicite, ou c'est juste l'idée que le voisin vous aimera plus quand vous faites un certain geste. Donc c'est plus compliqué, mais l'essence est la même. Alors pour la modélisation, on avait parlé de deux facteurs, donc ici un neurone J, un neurone I, on a besoin de trois facteurs. J'ai besoin de l'activité du premier neurone, j'ai besoin de l'activité du deuxième neurone, et en plus, j'ai besoin d'une notion de succès, succès dans ce sens large, pas nécessairement le sucre. Et ce système de succès existe, donc il y a des neuromodulateurs qui font des connexions un peu partout dans le cerveau et qui permettent de dire ça c'était plus utile, plus de récompense qu'en moyenne. Revenons au réseau de neurones artificiels, c'est avec ce type d'algorithme que les réseaux de neurones artificiels aujourd'hui, qu'on appelle aussi réseaux profonds ou réseaux de neurones profonds, apprennent à jouer au jeu d'échecs, à jouer au jeu de Go et autres. Alors, ces réseaux de neurones artificiels, ils sont organisés en couches. Il y a une première couche, c'est là que vous avez les entrées, qui, la première couche transmet l'information à la deuxième couche, celle-ci la transmet à la troisième couche, à la quatrième couche, et finalement, après peut-être 25 ou 30 couches différentes, il y aura la sortie. Pour l'exemple du jeu d'échecs, alors comme André, vous prenez l'échiquier avec toutes ces différentes positions, et comme avant, donc un neurone rouge, ça veut dire qu'il est plus activé que les autres, cette neurone-là, maintenant, représente une certaine action, par exemple celui de avancer le roi et pas la reine. Alors, et pour entraîner ce réseau de neurones, on a besoin d'une autre sortie, qui est, disons, une sortie fictive, parce que ce n'est pas vraiment l'action, qui est juste la valeur de l'action. Et on entraîne cette valeur de la position ou de l'action, et on utilise cette valeur pour entraîner tous les réseaux. D'accord? Alors, l'apprentissage, comme avant, c'est le changement des connexions. Et pour faire ce changement des connexions, on utilise la valeur. Et en même temps, pendant l'apprentissage, on apprend aussi de prédire la valeur d'une certaine position. Alors, appliquons ça au jeu d'échecs. Donc, c'est les dernières applications. Il y a 6 mois, il y avait un petit papier là-dessus. Vous avez un échiquier avec 64 petits carrés. Sur chaque carré, vous avez 6 pièces possibles différentes. Le roi, la reine, la tour, le fou, etc., le pion. Et il y a 2 couleurs. Et on regarde pas seulement la position actuelle, mais aussi la position comme il était 2, 3, 4, 5, 6, 8 pas dans le passé. Et si vous faites le compte, ça veut dire que vous avez en total environ 10 000 neurones à l'entrée. Et ensuite, pour la sortie, vous pouvez avancer le pion, vous pouvez avancer le roi. Donc, vous avez beaucoup de différentes possibilités, environ 7 000 actions différentes. Et l'action qui est choisie, le plus souvent, c'est celui qui est le neurone qui est le plus activé, qui a une activation, qui a l'activation la plus haute. Et maintenant, ce qui est intéressant, l'apprentissage se fait juste en jouant. Donc, il y a les règles du jeu qui sont pré-connues. Donc, toutes les possibilités permises, c'est connu. Mais développer la stratégie de jeu, ça se fait par apprentissage et ça se fait en prenant 2 copies. Donc, j'ai l'algorithme comme joueur de blanc. J'ai le même algorithme, mais dans une version différente pour le joueur des noirs. Ensuite, ils jouent ensemble et chacun essaye de s'entraîner. Et parce que c'est rapide sur ordinateur, dans 9 heures, ils font 40 millions de jeux complets. Et le signal qui est utilisé, c'est juste à la fin, j'ai gagné, oui ou non. Alors j'étais en train de... Désolé, donc ce n'est pas mon ordinateur. Et il a un comportement spécifique à lui. Alors, l'apprentissage se fait entre 2 versions de ces réseaux de neurones. Ils jouent beaucoup de jeux. Et à chaque moment, avant de bouger un pion ou la prochaine pièce, il va regarder les séquences potentielles pendant 1 seconde. Et parce qu'il a cette notion de valeur, il peut très rapidement voir ce qui ne va pas dans la bonne direction, et il va proposer des bonnes suites chaque fois. Et avec cette méthode-là, Donc l'algorithme découvre à partir de zéro toutes les ouvertures qui étaient connues par les experts d'échecs, ouverture anglaise, ouverture française, et quelquefois avec des petites variantes, et quelquefois, donc ça c'est sur les 8000 répétitions du jeu, donc ça c'était plus à la mode au début qu'à la fin, par exemple. Mais globalement, toutes ces différentes variantes sont découvertes par l'algorithme. Donc ça c'est une première application, jeu d'échecs. Le même algorithme marche aussi pour les jeux de Go et pour encore un troisième ou quatrième jeu. Le même style de réseau de neurones artificiels est par exemple aussi utilisé pour permettre des voitures autonomes. Alors, vous mettez par exemple l'image vidéo de la rue à l'entrée, plus les capteurs de distance de tous les sens. Et après, la sortie, évidemment, c'est avancer, tourner à gauche, tourner à droite, et de suite. Encore plus stupéfiant, vous avez des réseaux neurones ici, aussi avec des récurrences. Donc, ça reste en couche, mais l'information peut circuler. Et ces réseaux de neurones sont entraînés avec une base de données des milliers de fiches, des images. Et on a, pour une partie de ces images, on a des annotations correctes. Un humain qui a mis l'image sur le web dit, ouais, ça c'est de l'ablage. D'accord? Et maintenant, ce réseau-là, il prend ça comme entrée, il n'a jamais vu cette image-là, et le réseau dit, a man is sitting on a couch with a dog. Hein? C'est hallucinant, je peux vous dire. Hein? Parce qu'on a vraiment l'impression que cet algorithme, il ne prend pas seulement les pixels, mais il comprend l'image. Alors, ça c'était les réseaux de neurones artificiels. Maintenant pour les questions plus fondamentales, j'aimerais commencer avec la question « Un robot sait-il penser ?» Alors pour la suite, quand je dis « robot », prenez « réseau de neurones artificiels » ou « ordinateur » ou « machine hein ». C'est maintenant cette question qu'on avait déjà entendue dans le premier exposé de Lydia aussi, « Homme machine », est-ce qu'on est la même? Alors, un robot sait-il apprendre? Ah ben bien sûr, un réseau de neurones artificiels est fait pour apprendre. Un robot sait-il prendre des décisions? Ah mais bien sûr, il décide de bouger le roi et pas la reine. Un robot a-t-il des valeurs? Ah mais bien sûr, toute la force de l'algorithme est construite sur cette notion que cette position a une valeur meilleure qu'une autre position. D'accord? Finalement, un robot sait-il penser? Ah, j'aimerais prendre un moment. D'accord? On a vu déjà cette citation célèbre. Ouais. Je pense donc je suis. J'aimerais bien commencer avec ça pour ces questions plus fondamentales, mais peut-être pas dans sa version existentielle de Descartes, mais dans la version ah. La pensée, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, je pense. D'accord? Et ça nous ramène à la conscience de soi. Et j'aimerais décliner la conscience de soi en trois aspects. Premier aspect, action. Vous avez peut-être une voiture, petite Renault ou Porsche, je ne sais rien. Quand vous pressez la pédale d'accélération, ça avance. Avec une Porsche, ça fait vroom. D'accord? Ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est le fait que vous prenez ça, quand vous êtes au volant, comme votre action. C'est mon action. D'accord? Deuxième aspect, conscience de soi dans le sens du corps. Alors, je peux prendre un objet et toucher ma main, et c'est moi qui ressens cette sensation, et pas vous. Évident. D'accord? Troisième aspect, pensée. Alors, ce qui est assez spécial, c'est que quand je pense, et on a vu ça déjà avec Stéphanie dans le contexte d'imagerie, disons la l'image de personne des autres theory of mind. Donc quand je pense, je ne peux pas seulement penser sur des choses, mais je sais aussi que je pense. Et la pensée peut devenir l'objet de la pensée. Et vous dites peut-être que c'est circulaire. Oui, c'est circulaire dans le sens autoréférentiel. Alors, j'aimerais commencer avec cet aspect-là, qui est le plus intéressant. Après, je vais aussi parcourir les deux autres. Maintenant, le robot, sait-il penser? J'aimerais prendre l'image du philosophe John Searle à Berkeley, qui a développé ce concept de la chambre chinoise. Ça s'appelle vraiment comme ça, ça n'a rien à voir avec l'église chinoise ici. Allez, l'idée est la suivante. Moi, je suis dans une chambre et je reçois des papiers. Et des papiers ont des symboles chinois. Et je peux vous assurer, je ne connais rien du chinois. D'accord? Maintenant, il y a aussi une pile de papiers avec d'autres symboles chinois. Ce qui m'intéresse, c'est le symbole qui est en haut. Et j'ai un livre d'instruction qui dit de style « if up, then up ». Ça veut dire, je prends un symbole qui m'est donné par la porte, je compare le symbole ici sur la pile, et après je me dis, ah, je dois prouver ça dans le livre d'instruction. Si symbole 18, là, et symbole 256, là, alors il faut faire ça, j'ai écrit un autre symbole, et je répète ça, donc j'entre dans une boucle, j'efface un symbole, j'écris un nouveau symbole, et à un moment donné, j'ai un symbole, plus un symbole ici, et le livre d'instruction me dit, maintenant, sortez la réponse. Alors, je sors la réponse, et la réponse est parfaite, parce que c'est un algorithme que j'ai exécuté. C'est moi qui a remplacé l'algorithme de l'ordinateur. Je fais chaque pas correctement. Alors, à chaque moment que le robot aurait donné cette réponse-là, je la donne aussi. Mais évidemment, j'ai rien compris de la question. J'ai juste exécuté des instructions. J'étais focusé sur un pas à la fois. Et ce qui manque là, c'est, dans un certain sens, la conscience de la pensée. Et John Searle prend ça comme argument, et je suis d'accord avec lui. Donc, un ordinateur ne peut pas penser, donc il fait des choses une fois, un pas à la fois, mais en même temps, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, cet aspect de penser, de savoir penser, c'est ce qui manque. Alors, je dirais la pensée humaine est différente de celle d'un ordinateur, parce que moi, je sais que je pense. Ensuite, deuxième aspect, la conscience du corps. C'est assez intéressant. Maintenant, après, on aura la pause. Je propose que vous preniez un crayon et un papier et vous allez dans la position normale d'écriture et vous juste passez le crayon sur le papier ou sur une surface rugueuse ou autre. Et après, vous réalisez, vous sentez la surface, la texture de la surface. Et j'aimerais juste poser la question, et j'aimerais que vous répondiez honnêtement. Où est-ce que vous sentez la surface? Est-ce que vous sentez une vibration des doigts? Ou est-ce que vous sentez ça directement sur le papier? Et la plupart des personnes disent, ah mais oui, c'est fascinant, je le ressens sur le papier. D'accord? Maintenant, il faut se rappeler, on était à l'école, école enfantine, école maternelle, et ça prend beaucoup de temps juste de tenir le stylo, tenir la plume et faire ces gestes. Et après, c'est intégré dans votre système. Vous avez l'impression comme le stylo devient une extension du corps. Moi, j'ai fait beaucoup de vélo. Et quand je fais du vélo, je regarde bien sûr aussi la route. Et à un moment donné, disons, je sens la route, non pas comme une vibration du poignet, mais je la sens sur la route. Hein? Ceux qui font du vélo, D'accord. Alors, les outils fréquents sont intégrés dans notre corps, dans la perception du corps, et on peut comprendre ça en tant que scientifique, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que quand je fais du vélo, j'ai toujours cette vibration-là ensemble avec la bulle de la surface. Quand vous étiez à l'école, vous avez beaucoup entraîné et quelquefois ça coince un peu et vous ah oui, c'était parce qu'il avait une petite bosse dans les papiers. Alors, vous pouvez intégrer ça. On peut comprendre tous ces aspects-là de représentation du corps, représentation du toucher. Mais on peut quand même pas développer plus cet aspect que ça devient un moi. Je peux, comme scientifique, je peux décrire les corrélations statistiques qui permettent de dire, oui, là, vous allez intégrer cet outil-là parce que maintenant vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vu beaucoup de corrélations, mais le moi n'apparaît pas automatiquement. Alors, troisième point, action. J'avais parlé de la petite Renault, vous prenez une décision, vous accélérez. On prend beaucoup de décisions tous les temps. Vous pouvez décider de prendre un café ou un thé, vous pouvez voter pour un candidat, vous pouvez décider de tourner à gauche et à droite, et c'est pas surprenant que ces décisions sont quelque part reflétées dans le cerveau. Alors, faisons une petite expérience, et c'est maintenant c'est à vous à décider. Vous avez le pion rouge, vous avez fait un 4, et est-ce que vous prenez la bifurcation à droite, court, raccourci, risqué, ou est-ce que vous préférez à gauche? Ok, petite vote, juste. Qui prendrait le choix risqué à droite? Ok. Qui prendrait le choix à gauche? C'est moitié, moitié. D'accord? Comme une bonne fondue en Suisse, d'ailleurs. Alors, c'est une décision que vous prenez, basée sur vos expériences. Alors, on refait le jeu. Qui aimerait prendre à gauche? Qui aimerait prendre à droite? Je vois pas beaucoup d'enthousiasme. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vous n'implique pas avec vos valeurs, avec vos expériences. Pour étudier scientifiquement la prise de décision, c'est exactement ce type de situation qui est regardé. Et c'était la question, est-ce que j'ai envie de bouger la main droite ou la main gauche? Alors le sujet est dans une machine d'imagerie, comme Stéphanie a expliqué. Et l'instruction c'est, vous êtes là, et vous pouvez bouger... Vous êtes calme, mais si vous avez envie de bouger la main gauche, vous la bougez. Si vous avez envie de bouger la main droite, vous la bougez. Et en même temps, il y avait une suite, deux fois par seconde, de caractères. Et l'instruction était, au moment où vous avez vraiment ressenti, maintenant j'aimerais bouger, vous regardez le caractère. Ici, c'était un Y. Et après, comme ça... On peut demander, pose la question au sujet, il sait bien Y, on sait au moment où il a vu Y, c'était cette partie-là du cortex qui est allumée, ce qui est bien le contrôle du mouvement. D'accord? Mais, 2 secondes avant, quand le R était visible, il avait déjà une autre partie du cortex qui préparait cet mouvement. D'accord? Alors, la décision, si vous voulez, est préparé 2 secondes avant vous sentez que vous avez pris la décision. Et ça peut poser un problème. Alors, il a un résumé comme ça, votre cerveau décide pour vous ce que vous voulez ou ce que vous préférez. Ou Prince disait, « We don't do what we want, but we decide to want what we do. » Hein? La première fois, c'est vraiment j'étais choqué, hein, parce que ça pose beaucoup de questions de responsabilité. Mais finalement, il n'y a pas de problème. Le cerveau, c'est vous. Parce que où sont stockées vos expériences personnelles? Ils ne sont pas stockés dans vos pieds. Ils sont stockés dans le cerveau. Où sont stockées vos valeurs, mémorisées vos valeurs? Ils sont dans le cerveau. Alors, vos décisions sont reflétées par le cerveau. Ça ne peut pas être autrement, partiellement à cause de la méthodologie scientifique, comme Lydia Yeager dit, mais partiellement aussi. Oui. Alors, dans cette situation-là, vous savez que c'est vos expériences et vos valeurs que vous utilisez pour décider. Dans cette situation-là, où c'est complètement égal, ça vous était égal, vous n'avez même pas eu envie de voter. Alors, si dans ce cas-là, il y a un petit bruit dans le cerveau qui décide pour vous, ce n'est pas tellement gênant. Hein? Alors, les décisions sont prises dans le cerveau. En fait, la décision de freiner au jeu rouge est automatique. Vous freinez avant que vous réalisez que vous allez freiner. Donc, un joueur de tennis, il réagit avant de savoir que la balle vient. Donc la conscience, le contrôle est plutôt au niveau stratégie plus long terme. Mais ces décisions relevantes impliquent vos valeurs personnelles et expériences. Et ça veut dire que pour ces décisions de valeur, d'une certaine importance, vous avez le temps de prendre une boucle de contrôle qui peut aussi arrêter vos décisions. Alors, j'avais parlé de l'action. J'aime revenir sur la pensée. Et la boucle de contrôle que je viens de mentionner. Alors, il y a une idée qui est assez répandue parmi les scientifiques qui pensent à ça. C'est de dire... il y a cette boucle de contrôle qui permet de voir, disons, qui se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de décider? Et c'est ça ce qui est impliqué à la conscience de soi dans le sens de penser. Alors, notre cerveau prépare les choses, mais avec un petit retard, il peut contrôler ce qu'il est en train de faire. Comme ça, ça devient une conscience qui a un petit retard, mais qui n'est pas tellement problématique. Pas dans comme on a vu dans les décisions avant. Parce qu'il peut aussi arrêter une action si nécessaire. Sauf si ce sont des réflexes appris. Et avec cette conscience de soi, il peut concentrer les ressources énergétiques sur où ça vaut la peine. Parce que si vous pensez, on a beaucoup de capteurs sur toute la peau, on a la vision, on a l'audition, on a je ne sais pas quoi, alors ça donne beaucoup d'informations tout le temps, il faut quand même sélectionner. Mais ça pose un problème. Parce que, bien sûr, je peux simuler une boucle de contrôle sur une machine, sur un ordinateur. Je peux mettre ce type de boucle de contrôle aussi sur un robot. Alors, si j'affirme que cette boucle de contrôle serait importante pour la conscience, j'ai peut-être un problème. Alors, mais je peux aussi simuler l'eau dans son état liquide ou dans son état gelé. Et quand je simule ça, quand je simule sur ordinateur l'eau dans son état liquide, c'est pas l'ordinateur qui devient liquide. Alors, quand je simule une boucle de contrôle comme programme de conscience, c'est pas l'ordinateur qui doit devenir conscient juste en faisant ça. Alors, il faut éviter des conclusions erronées qu'on entend souvent. La conscience est certainement corrélée avec l'activité du cerveau. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez une anesthésie, c'est le cerveau qui est calmé. On est d'accord sur ça. Alors quoi? Je sais pas. Hein? Les scientifiques, les frontières de la science sont toujours en mouvement. Il y a 400 ans, c'était le ciel, le mouvement des planètes qui était à étudier. Les frontières ont bougé. Aujourd'hui, on a une vue très scientifique sur ça, qui n'affecte pas la foi chrétienne. Dieu est dans le ciel, mais pas exactement à 200 mètres. Aujourd'hui, on est d'accord sur ça. Maintenant, quelquefois, les scientifiques ne comprennent pas la conscience de soi. On touche ça, conscience du corps, conscience de l'action. Il y a quand même des éléments importants. Quelquefois, on entend, oui, les scientifiques ne comprennent pas non plus la mécanique quantique dans son aspect indéterminisme, dans son aspect non-localité, quelque chose ici que à une influence là, pratiquement instantanée. Alors peut-être la conscience est liée à la mécanique quantique. Mais alors, est faux. Hein? Alors quoi? Alors rien. Dans le cerveau, beaucoup de neurones interagissent dans un grand système. Ah! La température, c'est une notion statistique de la physique statistique. La température n'a très peu de sens pour parler du mouvement d'un seul molécule. C'est une notion qui s'impose quand vous avez beaucoup de molécules, quand vous avez un gaz, quand vous avez un objet. On peut parler de la température. Alors quoi? Il y a des gens qui disent, alors la conscience va émerger quand j'ai assez de neurones. Je ne peux pas l'exclure. Mais ce n'est pas une conséquence logique. Moi, j'ai aucun problème avec le Dieu créateur. Je peux admirer la création à travers des lois fondamentales. C'est quand même fascinant. On a vu ça aussi dans le premier exposé. Mais dans la foi chrétienne, il y a cet aspect-là, Dieu personnel, le Dieu qui peut parler à vous, le Dieu qui a une relation. Maintenant, où est-ce que Dieu peut entrer dans la personne? C'est une question où je n'ai pas de réponse. Dieu peut changer votre cœur? Oui, dans le sens, la parole de Dieu peut changer le cerveau, peut changer vos décisions, vos valeurs, vos convictions, votre regard sur l'autre, parce que ce sont des données. Et toutes les données sensorielles ou autres, la parole peut changer les connexions. Ça fait partie, ça s'intègre dans notre système de valeurs. La parole d'un bon psychothérapeute aussi. Donc, on peut mesurer les changements dans le cerveau après une séance. Mais il y a ce postulat, et c'était revenu dans tous les exposés aujourd'hui, il y a quand même le postulat éthique, nous sommes ancrés dans le christianisme. Il faut parler aux autres. Il faut, si vous voulez, partager la parole, parce qu'il faut s'opposer au fatalisme, au déterminisme. Donc, quelquefois, homme égale machine peut amener cette idée d'être passif, juste amené quelque part, bougé par les autres. Mais non, tu peux devenir responsable, tu peux changer, tu as un futur, tu as aimé. Une machine n'est pas responsable. Une machine fait ce qu'elle fait. Elle fonctionne comme elle fonctionne. Elle n'a pas ce moi responsable. Alors il faut insister que les humains sont des êtres humains sont spéciales parce que les conséquences seront majeures si on néglige cette différence. C'est avec ça que j'aimerais finir. La conscience est corrélée avec l'activité du cerveau. Alors, merci beaucoup.